Chapitre 36. Cependant, le jugement n'avait pas été rendu aussitôt que le duc d'Arverne l'espérait. Au lieu de venir tout de suite, comme M. de Condrieu-Revel l'avait annoncé, l'affaire avait continué de traîner sans être plaidée ni jugée. « C'est bien décidément pour la semaine prochaine, » disait M. de Condrieu-Revel chaque fois qu'il rencontrait le duc d'Arverne. « J'ai une promesse formelle. » Enfin, l'affaire avait été plaidée. Mais, contrairement à ce que M. de Condrieu-Revel avait annoncé, l'avocat du conseil de famille avait vigoureusement soutenu le maintien du conseil judiciaire, plus indispensable que jamais, car ce n'était pas seulement la fortune du jeune duc de Naurouze qu'il protégeait, c'était encore sa santé, sa vie, qui serait sérieusement compromise si ce jeune homme, dans les veines de qui couraient de dévorantes ardeurs, pouvait, grâce à cette fortune, satisfaire tous ses caprices et toutes ses passions. Et sur ce point, il avait donné cours à son éloquence la plus véhémente pour combattre d'odieuses insinuations. Est-ce que, si la famille spéculait dans une vue d'héritage sur sa mort, elle n'accéderait pas tout de suite à cette demande enlevée du conseil judiciaire qui, admise, rendrait au duc de Naurouze une liberté dont il abuserait aussitôt? Puis, tout de suite, il s'était longuement étendu sur M. de Condrieu-Revel, ce vénérable vieillard qui employait les dernières années de sa longue existence si honorablement remplie à protéger la jeunesse turbulente et désordonnée de son petit-fils, accomplissant son devoir courageusement, noblement, avec abnégation et sans espérer vivre assez longtemps pour être remercié par l'enfant prodigue devenu sage et comprenant enfin qu'on n'a jamais agi que dans son intérêt, pour son bien, pour l'honneur de son nom. Une pareille plaidoirie exigeait une réplique qui avait été renvoyée à Huitaine. Puis, à son tour, l'avocat de la famille, c'est-à-dire de M. de Condrieu-Revel, avait répliqué, ce qui avait pris un nouveau délai. Enfin, le tribunal en avait pris un aussi pour rendre son jugement. Attendu que les faits qui ont motivé la dation du conseil judiciaire ne se sont point renouvelés, attendu qu'au lieu de faire des dettes nouvelles, le duc de Naurouze a remboursé sur ses revenus sagement économisés la plus grande partie de ses dettes anciennes, attendu, etc., le tribunal... Le conseil judiciaire était levé. La liberté était rendue à Roger. « Maintenant, dit Roger lorsqu'on lui apporta cette bonne nouvelle, il faut voir ce que M. de Condrieu-Revel va faire. » L'attente ne fut pas longue. Dès le lendemain du jugement, M. de Condrieu-Revel, rencontrant le duc d'Arverne au Sénat, s'expliqua à ce sujet. « Je suis heureux de rencontrer votre Excellence, oui, très heureux. Je me proposais d'aller la voir pour lui parler de ce jugement qui m'a comblé de joie positivement, surtout par ses considérants. C'est une réhabilitation pour mon cher petit-fils. » Les attestations données par votre Excellence ont été validées par le tribunal. Validées. Cela n'a été que justice. Oh, sans doute, sans doute. C'est ce que j'ai dit moi-même au conseil de famille. J'espère qu'il accepte ce jugement. Avec bonheur, comme je l'accepte moi-même, car tous les membres de ce conseil ont un cœur de père pour ce cher enfant. Seulement... Et c'était à ce propos que je voulais voir votre Excellence. Seulement, le conseil de famille, après une discussion longue et approfondie, a pris une résolution que j'ai combattue, de toutes mes forces combattue, parce que je ne la trouve ni juste ni politique. Mais enfin, comme j'ai été seul de mon avis, il l'a prise malgré moi et tout ce que j'ai pu dire. Quelle résolution ? Interrompit M. d'Arverne, agacé par ce flux de paroles entortillées. « Celle, mon Dieu, oui, celle, vous m'envoyez encore tout ému, celle de faire appel à ce jugement de première instance. »« Mais c'est impossible. »« C'est justement ce que j'ai dit moi-même, c'est impossible, et j'ai donné les raisons qui abondaient pour combattre cet appel. »« On m'a écouté, on m'a d'autant mieux écouté que ces raisons que je développais, chacun des membres du conseil se les donnait lui-même. » Mais il y en avait une qui, pour eux, dominait toutes les autres, celle de la prudence. Ce n'est pas pour obtenir le maintien du conseil judiciaire que le conseil de famille forme son appel. Pourquoi alors ? Pas pour gagner son procès, non, pas du tout, mais pour gagner du temps simplement. Le conseil de famille estime que mon petit-fils, mon cher petit-fils, a fait des folies. Ces folies ont été causées par son extrême jeunesse, ce qui est tout à fait mon sentiment, et la preuve, c'est que la sagesse lui est venue avec l'âge, de sorte qu'en avançant en âge, il avance en même temps en sagesse. Donc, pour le mettre à l'abri de nouvelles folies, il n'y a qu'à ne pas lui donner la liberté d'en faire immédiatement. L'appel du jugement rendu hier paraît offrir ce moyen. En effet, cet appel ne sera pas jugé avant 6 mois, 1 an peut-être, et il y a lieu d'espérer que dans 1 an, mon cher petit-fils sera tout à fait sage, tout à fait sage, tout à fait. Monsieur Darverne dédaigna de répondre. Ce qui occupait son esprit, ce n'était pas la fourberie de monsieur de Condrieu-Revel, il en avait vu bien d'autres, c'était le délai 1 an dont on venait de parler. 1 an à attendre, quand, en ces derniers temps, il en avait été à compter les jours et les heures. Il fallait agir au plus vite, tout de suite. Le lendemain était un samedi, et justement, la semaine précédente, Madame Darverne avait été le samedi à Fontainebleau, où Roger s'était établi pour sa convalescence. Peut-être voudrait-elle y aller encore le samedi de cette semaine. Elle avait pris le précédent samedi le train de 11 heures. À 9h30, il se présenta chez elle. La femme de chambre lui répondit que Madame la Duchesse s'habillait. Mais cela ne l'arrêta pas. Il entra dans le cabinet de toilette. Elle était en train de boutonner sa robe devant une psyché. « Vous ? » dit-elle sans retourner la tête. « Ici ? » ?»« J'ai à vous parler. »« Je suis pressée. » Monsieur Darverne fit signe à la femme de chambre de sortir et il alla s'assurer que la porte était bien fermée derrière la tapisserie qui la cachait. Il revint alors lentement et, de la tête aux pieds, il regarda sa femme qui avait fait une toilette de voyage charmante, printanière et fraîche. Elle ne s'était pas détournée et, devant la glace, avec ses 2 mains, elle achevait de mettre en ordre chacune des parties de son habillement, tirant le corsage, aplatissant la jupe ou la faisant bouffer, tout cela avec une tranquillité parfaite, comme si elle avait été seule. « Vous sortez ?» demanda-t-il enfin, d'une voix contenue mais qui tremblait. « Oui. Où allez-vous »« À la campagne. Où ?» Elle se retourna brusquement et le regarda en face. Durant plusieurs secondes, ils restèrent les yeux dans les yeux. Il était blême et ses lèvres décolorées tremblaient. « Alors, c'est un interrogatoire ?» demanda-t-elle. « Au moins, c'est une question à laquelle je vous prie de répondre. »« Vous avez tort !»« En quoi donc ?» demanda-t-il avec hauteur. « Est-ce que votre question n'est pas de celle qu'on pose à une femme qui dédaigne de mentir ? N'insistez donc pas !»« J'insiste. Je vous ai déjà dit que j'étais pressée !» fit-elle en étendant la main pour prendre son chapeau. « Vous ne partirez pas. Et qui m'en empêchera ? Moi. Vous ? Allons donc. Où allez-vous ? Encore une fois, où allez-vous ? » C'était avec l'accent de la menace qu'il avait répété sa question. Mais elle ne parut pas intimidée. Elle se tenait la tête haute, le regard assuré, la releva encore, son regard exprima le défi. « Puisque vous le voulez, soyez satisfait, dit-elle, à Fontainebleau. »« Voir monsieur de Naurouze !» s'écria-t-il en s'avançant furieusement. « Puisque vous le savez, pourquoi le demandez-vous »« Pour que vous le disiez. »« Je l'ai dit. » Il leva au-dessus d'elle ses 2 poings crispés, mais elle ne baissa ni la tête ni les yeux, et le regardant en face plus dédaigneuse encore, plus méprisante, « Monsieur Janel !» dit-elle. « Remerciez Dieu que je ne sois pas seulement ce Janel que vous insultez, car je vous aurais étranglé depuis longtemps de mes mains. »« C'est votre grandeur alors que je devrais remercier ?»« C'est l'honneur de mon nom, L'honneur de mes enfants, cet honneur que vous traînez dans la boue et que je vous rappelle pour vous adjurer de faire cesser un pareil scandale qui nous déshonore, vous et moi, et qui, plus tard, les déshonorera eux aussi. Ne pensez pas à moi, votre mari, qui ne vous ai jamais rien fait que de vous aimer trop, et que vous perdez par le scandale de vos amours, car vous n'ignorez pas que vous me perdez, que ce scandale, mes adversaires et mes ennemis l'exploitent perfidement contre moi, que je puis être remplacé demain sans qu'on ait rien à me reprocher que d'être votre mari et la honte qu'à pleine main, à plaisir, vous jetez sur mon nom. Ne pensez pas à vous, à votre dignité de femme. Mais eux, vos enfants, ne penserez-vous pas à eux? Leurs voix ne trouveront-elles pas le chemin de votre cœur? Ne remueront-elles pas vos entrailles de mère? C'est eux qui vous parlent par ma bouche. Pensez donc qu'un jour, votre fille aimera peut-être, qu'elle sera aimée, qu'elle voudra se marier, et qu'une famille honorable pourra dire « Nous ne voulons pas de vous, fille de la duchesse d'Arverne. » Il s'enfonça les deux mains dans les cheveux, désespérément, pressant son front, enfonçant ses doigts dans son visage convulsé. Puis, tout à coup, d'une voix brisée que l'émotion étranglait. « La passion vous égare, vous affole. Revenez, revenez à vous. Rompez une liaison indigne de vous. » Elle avait été troublée, émue par l'appel qu'il lui avait adressé. Mais ces derniers mots, non préparés, non réfléchis, s'échappant irrésistiblement, la blessèrent et étouffèrent cette émotion. « En quoi donc est-elle indigne ? » dit-elle. « Indigne d'une honnête femme. » Ce sont là des grands mots que vous auriez bien dû m'épargner. Vous savez que je ne suis pas sensible à cette morale bourgeoise. Quant à la scène de jalousie que vous venez de me faire, je ne sais pourquoi, laissez-moi vous dire qu'elle est tout à fait déplacée. Vous demandez pourquoi ? Assurément. Séparée de fait depuis plusieurs années, je ne suis restée dans cette maison qu'à la condition, tacite il est vrai, mais que j'avais le droit de croire bien comprise de vous, de garder ma liberté. Il vous plaît aujourd'hui, je ne veux pas chercher sous quelle pression, il vous plaît de me refuser cette liberté, c'est bien, séparons-nous alors tout à fait. J'aime Monsieur de Nourouze. J'aime Monsieur de Nourouze, je le répète, non pour vous braver, non pour vous insulter, non pour vous peiner, mais pour que vous compreniez bien que rien au monde, ni votre volonté, ni vos ordres, ni vos menaces, ni les ordres ou les menaces de personne ne romperont cette liaison qui est ma vie même. Où il sera, je serai. Où il ira, j'irai. Vous avez voulu l'envoyer à Rome, je n'ai rien dit, parce que cette fantaisie de votre part ne s'est point réalisée. Mais je vous préviens aujourd'hui, puisque vous avez voulu aborder ce sujet malgré moi, que s'il avait été à Rome, j'y serais allé avec lui. Et que s'il y allait demain, j'irai à Vienne, à Londres, au bout du monde. Renoncez donc à toute espérance de rupture. Et si cette liaison vous blesse, si elle vous gêne, si elle compromet votre position dans l'État, encore une fois, séparons-nous. Je veux ma liberté entière pour demain, pour toujours, et je la veux tout de suite. Laissez-moi passer. » Tout en parlant, elle avait mis son manteau et son chapeau, et elle était arrivée devant lui. « Vous ne sortirez pas !» s'écria-t-il en faisant deux pas au-devant d'elle. Elle s'arrêta, puis, changeant de direction, elle alla à la cheminée et tira un cordon de sonnette. « Alors, vous emploierez la force pour me retenir !» La femme de chambre entra. Il y eut un moment de silence terrible, puis Madame d'Arverne reprit son chemin vers la porte de sortie et arriva jusque contre son mari qui lui barrait le passage. Il leva les deux mains violemment. « Eh bien ? » dit-elle. « Valère, Valère !» Ses mains étaient retombées. Elle passa et, suivie de la femme de chambre, elle sortit. Il se jeta après elle, mais aussitôt il s'arrêta. Pendant quelques secondes, il resta immobile. Puis, tout à coup, sortant violemment, il monta au second étage, à l'appartement de ses enfants. « Louis, Eugénie !» dit-il à la gouvernante. Les deux enfants, les deux aînés, entendant leur nom, accoururent suivis des deux plus jeunes. Il prit Louis et Eugénie, il les serra dans ses bras, il les embrassa convulsivement, allant de l'un à l'autre, mais sans plus s'occuper des deux plus jeunes que s'ils n'étaient pas là, s'ils n'avaient jamais existé.